Vous êtes né dans le quartier Saint-Roch.
À chaque fois qu'on rencontre un Montpelliérain, qui que ce soit, tout le monde a une espèce de nostalgie de ce quartier.
Et j'y ai donc vécu les 10 premières années de ma vie.
Racontez-nous votre Montpellier.
Vous changez de lieu dans Montpellier, vous changez d'univers.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre des Montpelliéraines et des Montpelliérains.
Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire.
Amis auditeurs, mes auditrices, bonjour. Le phénomène est quasi invisible, en tout cas pour ceux qui ne veulent pas le voir. Dans les rues de Montpellier, notre bonne ville de Montpellier, de très nombreuses personnes sans abri, plusieurs centaines, qui ne trouvent pas où dormir, protégés du froid. Des lieux d'hébergement temporaire d'urgence existent, mais ils sont insuffisants. Le 115, qui permet d'y accéder, est souvent saturé. Des bénévoles interviennent pour apporter leur aide. Une quinzaine de commerçants solidaires, membres du réseau Le Carillon, améliorent le quotidien des personnes sans domicile avec des petits services gratuits, des toilettes, un four micro-ondes, la recharge du téléphone, de l'eau, etc. Des associations comme Entraide SDF se mobilisent. Parmi elles, Deliveroo. Non, ce n'est pas une entreprise concurrente de Deliveroo, mais c'est une initiative citoyenne. Mon invité, Sophie Fazio, co-anime cette activité avec Gilles Lassaigne et Lila Ruiz de Somocurcio. À titre professionnel, vous travaillez dans le social comme animatrice médiatrice à l'accueil de jour au sein de l'association GAM. Avec Deliveroo, vous prolongez cet engagement à titre personnel. Merci de nous parler de Deliveroo au micro de Divergence FM. Alors Sophie Fazio, montpelliéraine depuis 11 ans, mais longuement toulousaine, vous connaissez la ville, y compris l'envers du décor. Racontez-nous votre Montpellier. D'abord, quels sont les lieux qui figurent sur les cartes postales ou pas que vous aimez particulièrement? Qu'est-ce qui vous plaît à Montpellier?
Déjà, bonjour à tous. Merci de me recevoir. Montpellier, pour moi, je vais vous raconter un petit souvenir. Il y a 11 ans, quand je suis arrivée, première chose que nous avons faite avec ma compagne, c'est d'aller à la plage. Et je me suis dit, chouette, j'ai l'impression d'être en vacances et c'est maintenant là où je vais vivre. Donc Montpellier, c'est ça, c'est la ville, mais c'est aussi à la proximité de la plage, des Cévennes, où il suffit de faire quelques kilomètres pour se retrouver en dehors du centre-ville. Mais Montpellier, c'est aussi le centre-ville, l'Écusson, un endroit que j'aime beaucoup, avec toutes ces petites ruelles, ces magasins un peu cachés qu'on découvre au fur et à mesure.
Et alors, quand vous vous apprêtez à recevoir des amis ou des parents qui ne connaissent pas Montpellier, que leur dites-vous, que leur conseillez-vous?
De se balader à pied. J'aime bien la marche à pied sur le centre-ville. J'habite pas très loin de l'Écusson, donc on y accède assez facilement. Et c'est de la déambulation dans les rues. C'est ça qui...
Oui.
En plus, on a la chance d'avoir vraiment des quartiers assez différents. Donc, donc voilà, les Beaux-Arts aussi. Antigone, c'est un quartier peut-être que j'aime un peu moins pour ses nouvelles constructions. J'aime plutôt l'ancien. Mais voilà, des quartiers différents, des choses à découvrir partout.
Et est-ce qu'il y a des mots qui caractérisent Montpellier, qui distinguent Montpellier d'autres villes? Bon, il y a l'environnement, vous l'avez dit, la mer, les Cévennes, la garrigue à quelques kilomètres, mais quel est le style de Montpellier? Comment vous le décririez? Peut-être d'une manière un peu abrupte, je dirais, ou limitée, mais en tout cas...
Une ville assez hétéroclite, où il y a beaucoup de jeunes, notamment par les facultés qui sont assez présentes. Une ville dynamique, une ville, comme je disais, jeune. Une ville aussi sportive, parce que je fais du sport.
Quel sport?
J'ai fait du tennis longtemps.
D'accord.
Donc une ville assez, assez intéressante culturellement aussi. Je pense au musée Fabre, que j'aime beaucoup. Voilà, c'est le pavillon populaire aussi, où j'ai eu l'occasion d'aller récemment.
Oui, les expos photos.
Les expos photos, voilà, du pavillon populaire.
Et est-ce que malgré tout, parce que vous êtes bien placé pour le savoir, il y a ce que j'appelais tout à l'heure l'envers du décor, c'est-à-dire Montpellier qui n'est pas dans les plaquettes, des belles plaquettes couleurs, qui n'est pas au générique d'un feuilleton qui passe tous les soirs sur France 2. Ce Montpellier-là, bon, il existe toutefois.
Il existe, bien sûr. Depuis 2 ans de mes engagements auprès de Deliveroo et ma reconversion professionnelle, en fait, on s'aperçoit qu'on a peut-être plus l'œil à ça, mais effectivement, l'envers du décor, les personnes qui font la manche, il y en a énormément. énormément sur chaque coin de rue, avec des endroits bien sûr stratégiques, mais l'envers du décor est bien présent, oui. Effectivement.
Endroits stratégiques, comédie, gare,
plan cabane. Plan cabane, exactement. Oui. D'accord. Tous ces quartiers-là, plus
très
proches
bien.
Du centre-ville.
Alors, nous sommes dans le sujet. En deux mots, on le détaillera dans quelques minutes. Quelle est l'activité, quelle est la mission que Deliveroo s'est donnée?
La mission de Deliveroo, c'est d'abord créer le lien, recréer le lien vers ces personnes isolées. L'aller vers, apporter un repas n'est qu'un prétexte, en fait. Et c'est montrer aussi à nos bénévoles que l'aller vers peut être facile et montrer aux gens de Montpellier qu'il ne faut pas grand-chose, en fait, pour pouvoir créer un lien avec ces personnes, redonner un petit sourire, partager quelques nouvelles aussi, orienter, si on le peut, sur des organismes bien connus de Montpellier, les associations, comme je pense à, effectivement, GAM, mais je pense aussi à la Croix-Rouge, à la HM, qui est très présente. Donc, c'est recréer un lien, voilà, et montrer que ce sont des personnes comme nous et qu'il ne faut pas grand-chose.
Voilà, qu'il ne faut pas grand-chose pour se retrouver dans leur situation, que les accidents de la vie peuvent conduire, bon, on perd son boulot, une rupture conjugale ou je ne sais quoi, qui conduit à des personnes, contre leur gré, bien entendu, de se retrouver dans cette situation.
Exactement, ça peut aller tellement vite. Beaucoup sont quand même gênés de rencontrer cette expérience-là. C'est quelque chose qui est très personnel, hein, donc, et puis c'est d'abord un échec pour eux. C'est pas facile de se livrer sur ce genre de détails, mais on arrive à créer du lien et rencontrer des bénéficiaires qu'on appelle aussi nos voisins, parce que ce sont nos voisins.
Oui, parce qu'ils habitent à deux à trois rues, enfin, ils habitent, pas sans parler, ils vivent à trois rues de là où on habite, bien sûr.
C'est ça, ce sont des personnes qui sont régulièrement à des points stratégiques, comme on disait tout à l'heure, et beaucoup de personnes passent devant sans les voir.
Alors, quand Deliveroo a été créé, c'est parti, j'imagine, d'un constat, d'un état des lieux. Quel était-il et pourquoi avez-vous choisi, je veux dire, ce type d'activité, sachant que, je l'ai rappelé, vous l'avez vous-même évoqué, d'autres personnes, d'autres bénévoles, d'autres associations interviennent auprès de ces personnes en difficulté. Quel a été un peu, je dirais, le déclic qui a conduit à la création de Deliveroo?
Les créateurs, à ce moment-là, se sont rendus compte que sur le premier confinement, tout le monde était chez soi et que ces personnes-là restaient dehors parce qu'il n'y avait pas de structures mises en place pour héberger ces personnes, pour aider. Et voilà, le prétexte du repas, de se dire, bah, on va sortir, nous, on va y aller, on va apporter un repas. Et petit à petit, en fait, le mouvement s'est organisé autour d'une première association qui s'appelait Pour Eux. Et on a découlé Deliveroo quelques mois plus tard pour un lancement vraiment de Deliveroo au 2 novembre 2020.
En vous inspirant d'une expérience lyonnaise, si mes souvenirs
sont
bons.
C'est ça, oui.
Qui était assez similaire,
Qui était assez similaire. Après, les créateurs, les administrateurs de l'époque ont mis en place des outils propres à Deliveroo.
D'accord. Alors, précisément, comment ça marche? Comment êtes-vous organisé? Quel est le dispositif que vous avez mis en place, expérimenté, mis à l'épreuve des faits, quoi, depuis maintenant plus de deux ans et...
Les réseaux sociaux nous aident beaucoup, hein, sur une page Facebook et aussi Instagram. Mais nous avons aussi un site internet qui nous permet d'être une vitrine, qui permet aussi de montrer ce que nous faisons, avec un mail, bien sûr. Et puis... Beaucoup de communication a été fait au moment du lancement. Donc ça nous a donné un bon bol d'air.
Novembre 2020,
c'est ça, tout à fait.
En plein Covid, donc.
Plein Covid, exactement. La communication, les médias nous ont beaucoup aidés. Et nous fonctionnons ensuite ensemble avec un réseau WhatsApp qui nous permet d'organiser tous nos cuissots et cuistots, de savoir qui fait des repas et quand, et de s'organiser en amont.
D'accord. Donc, il y a deux catégories de bénévoles. ceux qui préparent les repas, les cuistots, comme vous appelez, hommes et femmes, et ceux qui les distribuent ensuite.
Le moment
venu, parce qu'il faut y aller à pied ou à vélo pour distribuer.
Il n'y a pas de moyen de locomotion défini, mais c'est vrai que ça a été plus à vélo, parce que pour circuler en centre-ville, c'est quand même plus facile.
D'accord.
Plus facile.
Alors, donc, recrutement, entre guillemets, de gens disposés à préparer des repas. Mm-hmm. Comment ça s'est passé là? Par les moyens de communication que vous indiquiez, des volontaires, des gens qui ont dit « je veux bien »,
pas exactement.
Nécessairement à 7 jours sur 7, mais...
Et puis le bouche-à-bouche aussi, ça a pas mal fonctionné. On a aussi fait un événement pour notre premier anniversaire en 2021, donc le 2 novembre 2021, où pareil, on a eu la chance d'avoir encore des médias qui nous soutiennent et qui nous suivent, qui donnent de nos nouvelles régulièrement. Donc voilà, après...
Alors, les recettes, c'est les cuistots qui les choisissent. Vous en parlez avec eux, là, parce qu'il y a des contraintes de transport ou de maintien du plat au chaud. Là, comment ça se passe?
Il n'y a pas de contraintes alimentaires, puisque nous sommes justement un mouvement citoyen. Nous n'avons pas de statut, nous n'avons pas d'obligation sanitaire, en fait. Généralement, ce sont donc les cuistots qui soit partagent un reste de repas, qui ne sera pas consommé, ou qui en fait un peu plus ce jour-là pour pouvoir distribuer derrière, ou carrément fonctionner avec... On fonctionne aussi avec des récupes sur certains magasins.
Ah, d'accord.
Et qui nous permet de pouvoir donner de quoi cuisiner pour faire les repas.
D'accord. Et la distribution se fait à quel moment, là et...
En journée, principalement, oui, de midi à 15h.
D'accord. Moment du...
Pas de distribution le soir, pour des raisons un peu de sécurité. On préfère limiter ce créneau-là. Et aussi parce que le soir, il y a beaucoup de distributions alimentaires qui sont organisées sur Montpellier.
Par d'autres, il y a des maraudes ou autres.
Exactement.
Organisées par d'autres associations.
D'accord. Exactement.
Donc, vous récupérez ces plats chauds... peut-être compléter, j'imagine, je ne sais pas quoi, un fruit...
Généralement, c'est constitué d'un plat chaud, bon, surtout ici, en cette période d'hiver.
Ouais.
Plat chaud, un yaourt et un fruit, et parfois une boisson.
D'accord.
Les cuistots sont libres de préparer ce qu'ils veulent et de mettre ce qu'ils veulent.
Voilà, donc c'est bien ce mouvement de bénévoles là, qui est déterminant, qui donne la dynamique côté plat. Et ensuite, vos clients, ce n'est pas le bon mot, bien entendu, mais vos voisins, comment ça se passe, là, vous intervenez sur une partie importante de la ville, donc les quartiers dont on a parlé notamment, là, comment...
Principalement les Beaux-Arts et les Cussons. Voilà. Aussi Port-Marianne, beaucoup, l'avenue Clémenceau, du côté du secteur de Rondelet.
Ouais.
Il n'y a pas de secteur défini, hein. Comme le cuistot est libre, le cuistot est libre d'aller où il veut et à son gré.
Bien sûr.
Nous ne faisons pas de différence aussi sur les voisins. C'est la personne qui est croisée. On propose, bonjour, est-ce que vous avez besoin d'un repas? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose?
Voilà, parce qu'il y a cette prise de contact, quand même, comme vous disiez au début, c'est pas, bon, je dirais, je fourgue ma marchandise, bon, je le dis bêtement, là, mais en tout cas, il y a la relation qui s'installe pour proposer ce petit coup de main, quoi. Hein.
Généralement, bon, maintenant, on a nos cuistots qui ont de l'expérience et qui connaissent aussi pas mal les voisins savent où aller chercher, où aller apporter. Mais vraiment, la première chose, c'est bonjour, est-ce que vous avez besoin d'un repas? Je fais partie de Deliveroo. Et nous sommes maintenant bien identifiés.
Oui, j'imagine. Alors, il y a des personnes isolées dans la plupart des cas, mais il y a aussi des couples, des familles. Ça arrive qu'il y a des...
Chez Deliveroo, peu de familles.
Ouais.
Couples, oui, bien sûr. Et nous avons surtout des petits groupes, en fait, qui se regroupent, qui se retrouvent la journée, le midi.
Par affinité.
Par affinité, bien sûr.
D'accord.
Bien sûr. Ouais, c'est pas assez rare, mais on a plus, de d'hommes, on va dire,
ouais,
généralement,
ça.
Grande
majorité d'hommes.
Et les enfants, c'est assez rare, oui.
Normalement, ils sont pris en charge en priorité, les enfants. Il y en a des
les familles. Les femmes et enfants sont plus cachés aussi.
Voilà, ils sont plus cachés, là aussi, pour des raisons aussi, peut-être de sécurité ou de...
Oui.
De difficultés qui sont plus importantes.
Quoi, tout à fait.
Donc, il y a cette relation-là qui s'installe et qui, pour le coup, j'imagine, pour certains de vos voisins, pour reprendre le mot, se perpétue, quoi, je veux dire, des habitués, quoi.
On a des habitués, tout à fait. Ah, c'est Deliveroo qui arrive. Ah,
d'accord.
C'est Jeanne. Ah, c'est Eric. Ah, voilà. Super. Voilà. Oui, bien sûr, on est identifiés.
D'accord.
sur le fait d'être délivré, mais aussi sur les personnes qui se sont engagées dans délivrer. C'est très agréable. Mais c'est très agréable d'avoir aussi cette reconnaissance
bien
de
sûr,
l'autre côté.
Bien sûr.
Voilà. Nous, on est reconnus et nous les reconnaissons
voilà.
aussi.
Une reconnaissance voilà. mutuelle.
C'est ça.
Une gratitude mutuelle.
Aussi. Voilà. Oui, parce que tout bénévole qui s'engage, je pense, ne pas me tromper en me disant que ça nous apporte beaucoup à tous.
Alors, ces bénévoles, ils sont... là aussi, vous voulez bien les décrire. Qui sont-ils ? Voilà, des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, je ne sais pas. Des profils socio-professionnels. Bon, le mot n'est pas adapté, mais on se comprend.
Oui,
différents.
De milieux complètement différents. Aussi jeunes que personnes à la retraite. Cuisinière de profession, qui est là très régulièrement, je pense à Jade. Non, c'est très hétéroclite, on va dire, parce que... tout le monde y trouve son compte. Le fait d'être justement un mouvement et de ne pas avoir de contraintes, ça facilite beaucoup.
Il n'y a pas de règles. Ici, il y a quand même des règles de vie. On en parle,
de bienveillance voilà, auprès.
On va en parler, mais voilà, il n'y a pas l'appareil administratif, je ne sais pas quoi, une adhésion, une cotisation, une carte.
Non, il n'y a rien de tout ça.
Des comptes rendus à produire, parce que ce que vous faites peut-être dans votre métier professionnellement, là, ce n'est pas le cas. Il y a cette souplesse, là, cette simplicité, peut-être.
Quand on veut, quand on peut.
D'accord.
Voilà, quand on veut, quand on peut. C'est vraiment un mot d'ordre que nous, les administrateurs, on redit, parce qu'il ne faut pas aussi aller trop loin dans cet engagement. Il faut vouloir aussi trop en faire et dépasser aussi.
Ah oui, c'est-à-dire... Ah oui.
On ne peut pas... On touche un public qui est quand même assez fragile.
Oui.
Et on ne peut pas faire n'importe quoi. Voilà, donc c'est quand on veut, quand on peut. Il faut savoir avoir sa limite. Parce que des situations peuvent être quand même
bien
assez
sûr.
Compliquées quand les personnes se livrent. Donc,
ah oui, pour porter ce que vous constatez, ou pour porter d'éventuelles confidences, ou en tout cas les propos que tiennent les voisins, et bien sûr, ça peut être lourd, difficile. Et donc, voilà.
C'est notre rôle après d'administrateur d'être au plus près des bénévoles et d'être présent s'il se passe quelque chose.
Alors... petit bilan, là. Alors, bon, l'activité de livrée s'est développée là, au fil des mois. Mm-hmm. Que peut-on dire là, bon, on est en début d'année, donc vous savez, on fait le bilan, entreprise ou mouvement citoyen.
Oui.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là, de ce qu'a été l'activité de livrée dans l'année écoulée ?
Les livrées ne se fixent pas d'objectifs.
Oui.
Les livrées n'ont pas de bilan à rendre,
oui,
comme
sûr,
vous disiez. Mais on peut être fier de l'engagement de tous, d'avoir ces 13 000 repas depuis la création.
Ah oui ?
Oui, quand même.
Ah oui.
Quand même. On a quasiment tous les jours des personnes, des cuisiniers qui sont au fourneau et des cuistots qui livrent tous les jours, du lundi au dimanche.
Ah.
Donc,
du lundi au dimanche, d'accord.
Quand on veut.
Oui. Voilà.
Du coup, c'est quand même 13 000 repas qui ont été distribués sur les deux ans d'existence.
Plus de 4 000 en 2022.
C'est ça, 4 800.
Voilà. Ah, donc ça montre quand même que c'est pas anecdotique, quoi, du coup.
C'est pas anecdotique et ça montre qu'avec pas beaucoup, en fait, et on peut faire beaucoup, je trouve.
Alors vous-même, vous consacrez combien d'heures par semaine à délivrer, en grosso modo, la moyenne, pour donner un exemple, bon, comme Lila et Gilles qui vous accompagnent dans la...
Oui, c'est assez aléatoire, ça dépend aussi de nos sollicitations en tant qu'administrateur, mais on est tous les jours, tous les trois, sur notre groupe WhatsApp pour être là, pour être présent. On peut participer sur des réunions de veille sociale aussi, voilà, pour participer aux échanges et avec les autres institutions, autres associations de Montpellier. Donc c'est assez fluctuant, mais tous les jours. Il n'y a pas de jour de repos à délivrer.
Donc j'avais aussi dit en tête que bon, y a la démarche propre à délivrer, mais il y a nécessairement des liens avec les autres intervenants dans ce domaine-là, associations ou institutions, j'imagine pas quoi, le Centre communal d'action sociale et les services du Conseil départemental notamment, ou les services de l'État qui peuvent être concernés. Comment ça se passe ? Comment ça se traduit ? Est-ce que ça se passe bien ? Est-ce que cette co-intervention, je dirais, de bénévoles et de professionnels se passe dans des conditions qui vous paraissent bonnes ?
On a la chance d'avoir effectivement sur Montpellier quand même une grosse densité d'associations qui viennent en aide aux sans-abri. Mais on ne marche pas sur les pieds en tant que Deliveroo par rapport aux autres associations qui nous entourent.
À chacun s'attache et à chacun,
si on a besoin de quelque chose, de rentrer en contact avec ces autres associations et de faire le lien. Ça se passe très bien.
Parce qu'on pourrait avoir une fonction d'alerte, je dirais, ou d'orientation.
D'orientation plutôt que d'alerte, sauf en cas de gros problèmes, bien sûr.
Il y en a beaucoup qui n'ont pas toujours les mêmes missions, les mêmes moyens, le même mode d'intervention. Donc, vous pouvez être en mesure auprès de telle ou telle personne à qui vous apportez un repas, de lui dire... pour votre cas de figure, c'est là qu'il faut mieux s'adresser.
L'orientation est assez difficile et assez complexe, et c'est vrai que ça peut mettre mal à l'aise aussi les voisins, les bénéficiaires, parce qu'ils se retrouvent un petit peu perdus dans une immensité de possibilités sans savoir vraiment où aller.
Une complexité.
Une complexité, c'est ça. C'est vraiment pas évident. Ça peut être un chemin vraiment très difficile. Après, les associations, on a une application pratique qui vient d'Entraide SDF aussi, qu'on n'hésite pas à partager. Et c'est la force, en fait, du réseau, des partenaires avec lesquels...
Voilà, c'est ça. Donc, une fois de plus, c'est les relations, pas simplement, administratives ou institutionnelles, mais les relations humaines que vous avez nouées avec d'autres intervenants qui sont déterminantes.
Qui sont très importantes.
C'est pas un dossier qui circule de bureau en bureau.
C'est du terrain, c'est du terrain.
À partir de cas particuliers, spécifiques, qui prennent en compte...
Et puis, on n'est pas tous travailleurs sociaux. Voilà, ce n'est pas évident d'aller chercher les informations. Tout à fait.
Alors, j'imagine qu'au début, il y a une période un peu d'apprentissage, de tests. Mais avec ce recul qu'on a indiqué, de plus de 2 ans, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées ou que vous rencontrez encore dans la mission que vous vous êtes donnée, encore une fois, librement, spontanément, quels sont les genres d'obstacles, plus petits ou grands, ou de freins que vous avez dû traiter ?
Obstacles, je ne sais pas si c'est un obstacle ou frein, mais je pense que quand on a ce mouvement ou une association, je pense qu'on est toujours en recherche de personnes qui veulent s'engager. Parce que tout le monde a son chemin de vie, a ses obligations.
Il y a du mouvement.
Comme dans toute association, qu'elle soit sportive ou autre. Et je pense que c'est toujours aller vers les autres et toujours trouver du monde pour pouvoir faire fonctionner. Et aussi donner de l'air frais.
Du renouvellement.
Dans la structure de Deliveroo. On va dire que notre petit point faible, c'est le manque de cuistots, le manque de livreurs. Donc,
on va lancer un appel tout de suite, amis auditeurs, auditrices. Donc, si vous souhaitez proposer vos services et mettre à l'épreuve vos talents culinaires, ou si vous souhaitez vous dégourdir dans les rues de Montpellier en portant des repas, donc on peut rappeler peut-être le site internet, si vous voulez bien donner l'adresse.
Oui, c'est Deliveroo.fr.
Voilà, Deliveroo.fr, c'est très simple. Et vous trouverez là l'accès, si vous souhaitez être bénévole, et bien sûr des informations sur la manière dont Deliveroo fonctionne. Alors, donc vous avez indiqué que Deliveroo, ce n'est pas une association, même si les gens s'associent. C'est un mouvement citoyen. J'imagine qu'il y a un certain nombre de valeurs, de références que vous partagez. Quelles sont-elles ?
C'est surtout la bienveillance au niveau de nos usagers, de nos voisins. Nous ne mettons pas la politique en jeu. Rester simple, en fait, et ne pas avoir de...
D'arrière-pensée ou de, comment dire, d'intention autre que de la simplicité du geste.
Oui, c'est ça. C'est aller sur une chose essentielle, d'aller vers et rester simple, digne aussi, rendre de la dignité à ces personnes. sans en faire plus.
Voilà, sans faire du pathos, sans faire de grandes déclarations, sans développer je ne sais quel propos très général, dans cette simplicité humaine, en définitive.
C'est ça. Je pense que les personnes qui se sont engagées dans des livres russes sont des bons vivants, dont je fais partie, qui aiment manger, se faire plaisir, et faire plaisir aussi.
Voilà, qui aiment les gens aussi.
Et qui aiment les gens, bien sûr. Quand alors, on est bon vivant, on aime les gens.
Alors, j'imagine que quand vous apportez le repas à ces personnes, il y a des passants qui passent. Comment réagissent-ils ? Quel type de réaction avez-vous pu constater là, depuis que vous êtes engagé dans des livres ?
De la curiosité.
Oui.
Mais aussi parfois de mais qu'est-ce qu'elle fait ?
Oui. Une curiosité, comment dire, positive ou comment dire, ambiguë ?
Il y a les deux. Il y a les deux. Et. Moi, j'ai vu quand même le regard dur de ces gens qui se disent mais qu'est-ce qu'elle fait ? Pourquoi elle apporte un repas ? Alors, ça m'est arrivé d'aller discuter avec ces personnes parce qu'ils sont restés à côté, ils ont regardé. Donc, il y a quand même dans nos rues des gens qui sont bienveillants et qui se posent des questions. Hein, mais il y a aussi de la dureté, parfois.
Dureté, donc, à la fois donc, du mépris pour les personnes à qui vous apportez ce coup de main.
Oui.
Et de l'incompréhension ou de l'hostilité à votre égard, ça va jusque-là ?
Non, pas de l'hostilité. Non. Mais ce que disent beaucoup nos voisins, c'est être invisible, c'est nul. Oui. Parce qu'ils ont l'impression de ne pas être vus par la plupart de la population.
Alors, c'était mes premiers mots, parce que j'avais cette idée qu'effectivement, peut-être d'ailleurs moi le premier, bon, on mène une vie tranquille de classe moyenne dans un quartier de Montpellier. Et on passe à côté, quoi.
C'est ça.
Et j'ai constaté le même phénomène parce que j'ai eu un autre invité, un professeur de Paul Valéry, qui avait des études en humanisme, avait travaillé sur les nuits à Montpellier. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Les lieux, les modes de relations sociales, les tensions ou les activités positives nocturnes. Et c'était un peu la même chose. Pas la même chose, c'était... En gros, les gens qui vivent leur vie diurne, ignorent pour une grande part la vie nocturne. Et il y avait cette même méconnaissance d'un Montpellier autre que celui que, comme tout un chacun, on peut fréquenter. Quoi. Mm-hmm. C'est ça, là, cette ignorance. Parce que c'est quand même frappant, pour en revenir aux chiffres que vous avez indiqués au début, c'est que ce n'est pas un phénomène anecdotique qui concerne une poignée de personnes. C'est massif. Et avec un nombre de personnes concernées qui a grandi, qui a augmenté.
Bien sûr.
On peut le dire. Ça.
Et qui va continuer.
Parce que les raisons pour lesquelles les gens sont en difficulté, les raisons qu'on connaît maintenant, économiques et sociales, on le voit bien, la crise énergétique, hausse du coût de la vie, plus d'autres sources de ces phénomènes vont probablement se perpétuer.
Se perpétuer, s'amplifier. Et c'est vrai que les chiffres sont importants, mais ça ne va pas s'arrêter. Je suis un peu pessimiste, je suis désolée.
Parce qu'il y a l'idée que, on pense au Resto du Cœur. Quand Coluche a lancé, il y avait l'idée que c'était une affaire de quelques années.
C'est ça, tout à fait.
Et que, après, les questions seraient traitées, ce problème se résorbait. Ça n'est pas le cas.
Ça n'est pas le cas.
Et c'est le cas aussi pour les personnes sans-abri à Montpellier. Oui. Quel que soit le dispositif public, privé ou associatif qui sont mis en place.
Tout à fait.
Bon, on garde espoir quand même.
Donc, mais bien sûr.
Je rappelle donc pour les auditeurs, auditrices qui voudraient apporter leur part ou regarder ça de plus près, donc Deliveru en un seul mot, .fr. Merci, chers auditeurs et auditrices. À la semaine prochaine.
Merci.
Vous êtes né dans le quartier Saint-Roch.
À chaque fois qu'on rencontre un Montpelliérain, qui que ce soit, tout le monde a une espèce de nostalgie de ce quartier.
Et j'y ai donc vécu les 10 premières années de ma vie.
C'était Racontez-nous votre Montpellier.
Vous changez de lieu dans Montpellier, vous changez d'univers.
Une émission proposée par Alain Doudiès sur Divergence FM.
Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire.